Bonsoir, chaque nuit nous nous retrouvons pour découvrir les meilleurs reportages, interviews de la rédaction. Je suis l'intelligence artificielle qui vous accompagnera toute cette nuit. Bienvenue sur Vibration.
Les défis de la parentalité.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast où l'on va parler parentalité, ce lien unissant un adulte et un enfant dans le but d'assurer l'éducation, le développement et le bien-être de ce dernier. L'épisode 1 est consacré à la question des enfants et des écrans. Pour en parler, nous avons interviewé Serge Tisseron, psychiatre et créateur des balises 36912. Bonne écoute.
D'accord. Alors donc du coup, cette question, pourquoi pas d'écran avant 3 ans ?
Alors, avant 3 ans, l'enfant est en pleine construction de sa personnalité et de ses compétences motrices, ses compétences relationnelles, ses capacités d'attention et de concentration. Et donc, il est important que ces compétences puissent se construire dans la relation qu'il a avec les objets qui l'entourent, avec les humains qui l'entourent. Lorsqu'un enfant se trouve devant un écran, il ne manipule pas des objets, il ne transforme pas son environnement, il n'interagit pas avec un humain qui a un visage, des mimiques, des gestes, des attitudes, des échanges avec lui. Et donc, du coup, la construction de ses compétences s'en trouve gênée et retardée, et c'est comme ça qu'on peut voir chez des enfants qui passent beaucoup de temps dans les écrans, un retard global du développement. Alors, après, il faut relativiser l'importance des écrans, et vous comprenez bien que ce qui est important, c'est pas que l'enfant soit tenu à l'écart des écrans, c'est qu'il soit engagé dans des interactions, qu'il ait des jouets adaptés à son âge et qu'il ait surtout des partenaires, autres enfants, adolescents ou adultes, avec lesquels construire sa vie relationnelle.
Quand vous dites il est seul devant l'écran, il n'y a pas d'interaction. Justement, moi je me posais la question, si on regarde un film, un petit film adapté à l'enfant, je pense au film Disney, au film d'animation, mais avec son enfant. On est à côté de lui, on lui pose des questions, on essaye d'interagir avec lui pendant le film, pendant qu'il regarde. Est-ce que ça, c'est quand même nocif avant 3 ans ou c'est déjà mieux?
Ça n'est pas vraiment utile. Vous savez, ce qui est important pour un jeune enfant, c'est d'apprendre à déchiffrer les mimiques. Et apprendre à déchiffrer les mimiques, on ne le fait pas en regardant un film. Alors évidemment, il y a des dessins animés avec des personnages qui ont des mimiques. Mais souvent, ces mimiques sont très caricaturales. Elles restent très peu de temps sur l'écran, elles défilent. Et finalement, l'enfant ne leur donne pas du sens. Quand un adulte interagit avec un jeune enfant, ou même avec un autre adulte, les mimiques, en général, restent un moment sur le visage et elles font sens dans la relation. Donc, après 3 ans, un parent peut regarder des films avec un enfant, mais alors comme vous dites justement, l'important ça va être qu'il commente l'image pour convaincre l'enfant que l'important, quand on regarde les écrans, c'est ce qu'on va raconter sur les écrans. Les images, c'est ce dont on parle, c'est pas seulement ce qu'on regarde. Mais avant 3 ans, ce qui est vraiment fondamental, c'est le corps à corps, c'est la relation qui implique encore une fois les gestes, les attitudes, les mimiques, les intonations, et tout ça devant un écran, on peut pas l'échanger avec un enfant.
Alors, justement, on parle de cette balise 3 ans. Donc, on va parler des fameuses balises 3, 6, 9, 12. Déjà, pourquoi 3 ans ? Qu'est-ce qui se passe à 3 ans ? Il y a un changement miraculeux dans l'enfant ? Qu'est-ce qui se passe ?
Alors, n'oublions pas que 3 ans, c'était l'âge traditionnel où l'enfant entre en maternelle. C'est pas pour rien, c'est parce qu'à ce moment-là, un certain nombre de ses compétences de base ont été posées et il devient capable d'interagir avec des pairs, avec donc des camarades de son âge. Donc, on a beaucoup discuté à l'époque avec des collègues, 2 ans, 3 ans. Bon, on s'est dit que finalement, c'était pas plus mal de convaincre les parents de laisser leur enfant un peu plus longtemps à l'écart des écrans, parce que ce qu'on a craint, c'est qu'à partir du moment où on dirait ben ça y est, après 2 ans par exemple vous pouvez les mettre, ben il y a une rupture trop massive, donc on s'est dit on va attendre un peu, voilà. Et puis encore une fois 3 ans, les parents voient bien qu'il y a un changement, et c'est encore une fois pas pour rien que l'enfant rentre traditionnellement à la maternelle à 3 ans.
C'est qu'il est mûr, quoi. Il a eu le temps d'avoir toutes les bases dont vous parliez avant, quoi.
Voilà, il a construit ses bases et après il faut évidemment les perfectionner, mais elles se perfectionnent toute la vie. La capacité motrice, par exemple, l'attention, la concentration, ça se perfectionne ou ça s'endommage toute la vie, selon les activités qu'on va avoir. Mais à partir de 3 ans, il est capable, l'enfant est capable d'investir ses compétences dans la vie sociale. Élargie avec plusieurs camarades avant 3 ans, c'est quand même beaucoup dans la relation avec un adulte privilégié.
Alors, donc, les fameux 3, 6, 9, 12. Moi, la question que je me pose aussi, c'est qu'est-ce qu'on donne à regarder aux enfants? J'imagine que si ces balises, vous les avez faites, c'est qu'il y a une correspondance de ce qu'on est capable de regarder aussi par rapport à son âge.
Oui, exactement. Alors, pour faire rappeler un petit point d'histoire, donc en 2007, 2006-2007, il y a deux chaînes de télévision qui ont prétendu s'implanter en France pour émettre des programmes destinés spécifiquement aux enfants de moins de 3 ans. Et en plus, ces chaînes, dans leur publicité auprès des parents, insistaient sur le fait que les parents allaient devoir laisser l'écran de télévision allumé toute la nuit, donc l'enfant allait s'endormir avec la télévision, et s'il se réveillait pendant la nuit, il allait se rendormir avec la télévision sans qu'il hurle de solitude ou d'inquiétude et sans que les parents soient obligés de se lever. Donc j'ai trouvé ça quand même tellement terrible que à l'époque j'ai mobilisé des collègues, j'ai lancé une pétition, c'est là qu'on a dit pas de télé avant 3 ans. C'est 3 ans, vous voyez, c'était aussi ces chaînes qui prétendaient émettre spécifiquement pour les enfants de moins de 3 ans, y compris les enfants de 15 jours, 1 mois, 2 mois. Donc pas de télé avant 3 ans. À l'époque, la télé était le seul écran. Donc on disait tantôt pas de télé avant 3 ans et tantôt pas d'écran avant 3 ans, parce que ça sonnait mieux à l'oreille, pas d'écran avant 3 ans. Mais le seul écran, c'était la télé. Et puis à ce moment-là, des parents m'ont dit, bon, on a bien compris, mais et après, qu'est-ce qu'on fait? Je me suis dit, c'est vrai. Les enfants qui ont aujourd'hui 9 ans, 12 ans, peut-être qu'ils ont été beaucoup dans les écrans petits. Peut-être il faut aussi voir comment rattraper un certain nombre de choses qui se sont mal passées avec eux. Et donc, j'ai imaginé ces repères 3, 6, 9, 12, en les calant tout simplement sur les compétences de l'enfant. Et rien ne témoigne mieux des compétences de l'enfant que l'Organisation d'éducation nationale. Donc 6 ans, c'est l'entrée en élémentaire. Hein. 9 ans, tous les enseignants disent c'est une rupture quand même dans les compétences de l'enfant. Et 12 ans, c'est l'âge où l'enfant est déjà entré en collège, mais où il a trouvé ses repères. Parce que j'avais bien remarqué qu'en 6e, beaucoup d'enfants se sentent encore un petit peu en élémentaire. Et d'ailleurs, depuis, vous savez, l'éducation nationale a adopté finalement ses repères, puisque ça correspond maintenant à cycle 1, cycle 2, cycle 3, la 6e étant intégrée dans le cycle 3 et le cycle 4 ne démarrant qu'à partir de la 5e.
Et alors du coup, ces balises correspondent vraiment à ce que l'enfant est capable d'assimiler à cet âge-là, que ce soit en termes de violence ou en termes de joie, c'est ça?
Alors, ça correspond d'abord à ce que l'enfant est capable d'affronter dans la vie, sur les écrans, mais aussi et surtout, je dirais, à ce à quoi les parents doivent être attentifs. Voilà. Donc entre 3 ans et 6 ans, c'est important que les parents soient attentifs à éduquer l'enfant à la capacité qu'on appelle d'autorégulation, c'est-à-dire être capable d'apprendre à attendre. On sait aujourd'hui que la capacité de régulation, c'est une compétence psychosociale très extrêmement importante, être capable d'inhiber ses impulsions, d'attendre son tour, par exemple, voilà, que ça soit au moment du repas ou que ça soit quand les enfants lèvent le doigt dans la classe. Donc, être capable d'attendre. Et donc, c'est pour ça qu'entre 3 et 6 ans, j'ai conseillé aux parents de fixer une tranche d'écran. Alors, ils peuvent dire, ça va être une demi-heure par jour, une heure le mercredi, une heure le samedi, peu importe. Hein, voilà, je ne veux pas me substituer aux parents, ça dépend tellement de facteurs. Mais en revanche, que les parents fixent une tranche horaire et fixent un moment ou privilégié pour cette tranche horaire. Par exemple, dire à l'enfant, tu as droit à une demi-heure d'écran, c'est entre 18h et 18h30. Et montrer la pendule à l'enfant, lui dire, tu vois, c'est quand les aiguilles se trouvent là. C'est-à-dire apprendre à l'enfant à attendre. Et quand l'enfant dit télé, on lui dit, non, regarde, ça va venir, mais tu vois, c'est pas encore l'heure. Voilà. Et donc, du coup, quand l'enfant à 6 ans, il faut arrêter ça, parce que sinon, vous infantilisez votre enfant. Donc, à partir de 6 ans, c'est beaucoup plus un petit carnet de temps d'écran, lui demander de noter son temps d'écran, en parler avec lui. Voilà. Et donc, à partir de 9 ans, c'est d'autres préoccupations encore. Ça va être la curiosité d'Internet, ça va être le droit à l'intimité, le droit à l'image. Donc, vous voyez, à chaque tranche d'âge correspondent des interrogations de l'enfant, des curiosités de l'enfant, et donc des préoccupations différentes de la part des parents, qui veulent accompagner très correctement, le mieux possible, leur enfant dans la vie. Et donc, ces repères 3, 6, 9, 12, on les connaît souvent sous la forme des conseils spécifiques à chaque tranche d'âge, mais en fait, il faut comprendre que tous ces conseils sont liés à 3 principes de base, qui ont d'ailleurs depuis 2016 été reconnus par l'Académie américaine de pédiatrie et l'Académie canadienne de pédiatrie, c'est-à-dire accompagner l'enfant, on se préoccupe pas seulement du temps qu'il passe devant l'écran, mais aussi de l'accompagnement qu'on lui propose, procure, leur un accompagnement à partir de 3 ans en regardant de temps en temps des choses avec lui, mais bon, en même temps on peut avoir d'autres choses à faire, mais donc accompagnement en parlant avec l'enfant de ce qu'il a vu, parce que vous savez, les enfants ils sont pas très partants pour parler de ce qui se passe à l'école ou avec les copains. En revanche, les écrans, qui en plus ils voient à la maison, les mobilisent tellement sur le plan émotionnel, ça les bouleverse tellement qu'ils sont très contents d'en parler, que ce soit des jeux vidéo, des dessins animés, etc. Donc parler avec l'enfant de ce qu'il voit avec les écrans, plus tard de ce qu'il fait quand il commence à jouer aux jeux vidéo, ça c'est l'accompagnement. Alors l'alternance, ben, ça veut dire que il peut y avoir un peu de jeux vidéo, un peu d'écran partagé, un peu d'écran solitaire, voilà. Et puis quand l'enfant grandit, à partir de 6 ans, peut-être un appareil photographique numérique, ça c'est formidable, hein, ça lui apprend. Il passe du statut d'objet des photographies familiales au statut de producteur d'images, voilà. Donc alternance, accompagnement et puis apprentissage d'autorégulation, c'est vraiment les trois piliers, hein, des balises 3, 6, 9, 12. D'où dérivent 4 conseils, hein, qui commencent à être bien connus, heureusement. C'est le fait de limiter les temps d'écran, bien sûr, mais aussi de veiller à la qualité des écrans, choisir les programmes avec les enfants, discuter avec eux, accompagner et encourager les activités de création, l'appareil photographique numérique à partir de 6 ans, certains jeux vidéo comme Minecraft, voilà. Et puis également veiller à parler avec l'enfant constamment de ce qu'il voit et fait avec les écrans. Donc 3 principes de base, 4 conseils, et encore une fois, j'ai lancé ça en 2008. Dans les années 2000, l'Académie américaine de pédiatrie, l'Académie canadienne de pédiatrie, était uniquement sur des préconisations restrictives en termes de temps d'écran, et j'ai été heureux de voir qu'en 2016, finalement, ils avaient adopté cette façon de voir, quoi, plutôt la qualité que seulement viser la quantité et surtout accompagner l'enfant.
Alors justement, moi ça m'intéresse beaucoup cette question de qualité. Vous parlez de choisir bien son écran. Je sais que je vois des fois des parents, bah, je comprends au restaurant, on veut faire patienter l'enfant, ils vont mettre le téléphone. Est-ce qu'il y a une différence pour l'enfant entre en effet une télévision, un vidéoprojecteur, une salle de cinéma ou du téléphone et même les jeux vidéo? Alors Minecraft en effet ça fait appel à de la réflexion, mais il y a des fois des jeux vidéo comme Mario Kart, tout ça. Est-ce que tout ça se vaut? Est-ce qu'il faut faire attention?
Alors, il faut toujours privilégier les écrans partagés aux écrans solitaires, toujours privilégier les écrans interactifs aux écrans non interactifs. Ça veut dire que plutôt que de laisser un enfant tout seul devant un programme de dessin animé pendant qu'on regarde un film pour adultes, ben de temps en temps quand même regarder un film tout public. En plus, il en manque pas. Pendant le confinement, beaucoup de gens ont redécouvert les vieux de Funès, les vieux Fernandel, les vieux Bourville, voilà. Donc on peut avoir plaisir en tant qu'adulte à voir ou revoir de vieux films ou quelques westerns parfois pour les plus petits, voilà, quelques westerns pas pour les plus petits, pour les plus grands. Voilà. Donc en tout cas, toujours préférer les écrans partagés aux écrans solitaires et toujours préférer les écrans interactifs parce que les émotions sont partagées en temps réel. Si vous jouez à Mario Kart avec votre enfant, ben vous commentez au fur et à mesure, il commente au fur et à mesure. Alors que si vous regardez un bond de Funès, bon, vous riez ensemble au même moment, vous faites quelques remarques, mais finalement il y a peu de commentaires. Voilà. Donc ça c'est vraiment les 2 conseils importants. Et dès que l'enfant a 3 ans, on peut en effet trouver des activités qui correspondent à ces 2 principes.
Alors je sais qu'un peu plus tard. Je pense plutôt vers les 12 ans, parce que je pense que vraiment avant, vous allez me dire, mais ça me paraît jeune, c'est ce qu'on appelle l'accès aux réseaux sociaux. C'est un truc qui inquiète pas mal de parents, de devoir leur laisser un Facebook parce que le copain il l'a aussi. Est-ce que vous avez des conseils sur ça, sur la gestion des réseaux sociaux pour les parents vis-à-vis de leurs enfants?
Oui, alors les réseaux sociaux évoluent extrêmement vite. N'oubliez pas quand même qu'il y a une dizaine d'années, on ne parlait que de Facebook et c'était un réseau de jeunes. Aujourd'hui, beaucoup d'adultes sont sur Facebook et beaucoup de jeunes ont déserté, surtout les dernières générations, ont déserté Facebook. Beaucoup sont sur TikTok et TikTok n'a rien à voir avec Facebook. Donc TikTok est un réseau social d'ailleurs dont on ne sait pas combien de temps il va durer. Twitter, qui était un réseau social régulé à un moment, est devenu un réseau social dérégulé. Donc tout évolue extrêmement vite, c'est pour ça que je parle volontiers de jungle. Internet, c'est une jungle. On croit connaître un petit morceau et on s'aperçoit qu'en fait, autour, il y a des tas de choses qu'on n'avait pas vues et qui restent difficiles difficilement compréhensible. Les modèles économiques des réseaux sociaux sont opaques, ils s'en vendent pas de leur modèle économique, de piller nos données, de les exploiter. La régulation que les réseaux sociaux prétendent faire en fait existe très peu, c'est un rideau de fumée, voilà. Donc ce qu'il faut, c'est essayer de rester informé auprès des gens qui peuvent avoir dans un petit domaine une meilleure connaissance des choses que nous. L'exemple de la jungle est également intéressant parce que il y a pas de carte dans la jungle. Et donc qu'est-ce que vous faites si vous voulez aller dans la jungle? Vous cherchez un autochtone, hein, quand les conquistadors allaient en Amazonie, ils cherchaient un indien, voilà, qui allait les guider, qui connaissait les dangers, etc. C'est un petit peu ce qu'il faut faire. Alors, ça veut dire concrètement quoi? Ben ça veut dire d'abord que nos enfants, souvent, ils ont moins de compétences sur Internet que ce qu'on croit. Hein. Je veux dire, beaucoup de parents voient leur enfant constamment avec les doigts sur leur smartphone et pensent que leur enfant a une compétence. Non, les enfants ont souvent une compétence pointue sur un domaine qu'ils ont découvert assez tôt et dans lequel ils se sont beaucoup engagés, mais pas du tout une compétence large sur Internet. En revanche, la petite compétence qu'ils peuvent avoir, par exemple bien connaître deux ou trois youtubeurs ou bien connaître le réseau social qu'ils utilisent, eh ben ça, ils peuvent nous l'apprendre. Donc, les parents qui ont des pré-ados rament, parce que c'est difficile les pré-ados, mais en même temps, ils ont une chance, ils ont un technicien familial assez spécialisé, mais quand même technicien tout de même. Et donc, du coup, faut pas hésiter à parler avec notre enfant de l'activité qu'il a privilégiée, mais pas du tout dans une optique de censure, mais dans une optique de curiosité. Et je dis aussi d'ailleurs aux enseignants qu'ils peuvent faire la même chose avec leurs élèves, arriver en début d'année en classe en disant voilà, je suis monsieur ou madame machin, je connais bien la physique ou les mathématiques ou le français, je vais essayer de vous l'apprendre le mieux possible, mais il y a un domaine que je connais vraiment pas bien, c'est les technologies numériques. Alors des fois l'enseignant peut dire, je me pose des questions sur qu'est-ce que c'est TikTok, qu'est-ce que c'est Instagram, quelle différence, quelle ressemblance entre les deux. Donc l'enseignant peut dire, ben voilà, s'il y avait une personne ou deux parmi vous qui puissent me renseigner quand j'ai des questions, comme ça je leur pose la question, ils répondent, eh ben ça m'aiderait beaucoup. Alors est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont intéressés? Il y a plein d'enfants qui lèvent le doigt, ils discutent que lequel est le meilleur, ils votent entre eux. Il y a un coach numérique qui est élu par la classe et qui a pour mission d'informer l'enseignant, donc dans chaque matière, sur ce qu'il ignore du numérique. C'est la même logique, vous voyez, appliquée aux élèves que la logique appliquée à la famille. Il faut que nous soyons capables de reconnaître que dans des domaines limités, nos enfants en savent plus que nous. Et je dirais même que c'est parce qu'on reconnaît que dans certains domaines technologiques, ils en savent plus que nous, qu'on va pouvoir les rendre sensibles au fait que dans le domaine des valeurs, nous pouvons en savoir plus qu'eux. Mais on peut pas vouloir les convaincre des valeurs qui sont les nôtres si par ailleurs on ne leur reconnaît aucune compétence. Il faut leur reconnaître une compétence. Vous savez, aujourd'hui, la nouvelle génération, elle est beaucoup plus dans une logique du donnant-donnant. Les ados, ils voient bien que les adultes ont rien fait pour le réchauffement climatique, donc ils sont déjà déconsidérés pour ça, hein, voilà. Donc si en plus les adultes se mettent à dire faut pas faire ci, faut pas faire ça, c'est dangereux et tout, ben les ados, ils trouvent qu'ils sont pas crédibles, ils avaient qu'à s'occuper du réchauffement climatique plutôt, hein. Donc il faut accepter aujourd'hui cette logique du donnant-donnant, et encore une fois, ça concerne les parents et ça concerne aussi les enseignants. Alors après, ben il y a aussi tous les contacts que les parents peuvent avoir, les collègues de travail, les amis. Bon, souvent quand on est en soirée avec des amis, on discute des films qu'on a vus ou un petit peu de politique, des fois quand on sait qu'on est d'accord, qu'il va y avoir de clash. Mais parlons aussi des difficultés qu'on rencontre avec nos enfants, parce que finalement tous les parents rencontrent les mêmes difficultés. Et puis pourquoi ne pas créer dans les entreprises, même dans les écoles, des tableaux d'affichage sur lesquels un parent puisse écrire je suis d'accord avec mon enfant pour lui acheter une console, mais je sais pas laquelle choisir. Est-ce qu'il y a des parents qui pourraient m'informer, voyez? Parce que si vous allez sur Internet pour savoir quelle console de jeu choisir, vous allez tomber sur un tas de sites sponsorisés. Alors que si vous discutez avec d'autres parents, ben d'abord ça va développer votre sociabilité avec eux, puis peut-être au passage ils vont vous apprendre des choses que vous attendiez pas. Puis il y a quand même aussi des parents des fois qui sont informaticiens, qui vous le savez pas, mais peut-être le parent d'un copain de votre fils ou de votre fille, ben il a des compétences informatiques que vous ignorez. Donc voilà, il faut vraiment faire appel au contact de proximité. Hein. Et ça, malheureusement, On en est beaucoup dissuadé par le système actuel, dans le système social, politique, économique dans lequel on est, dans lequel c'est le régime des experts. Alors, et donc, les experts, faut pas oublier aussi que souvent, ben, ils sont un peu soudoyés par, par les GAFAM, voilà. Et donc, du coup, voilà, il faut développer, si vous voulez, une forme de curiosité collaborative, que les gens prennent beaucoup plus l'habitude de s'informer entre eux, qu'il y ait beaucoup plus de groupes de parents. Voilà, actuellement, l'école des parents et des éducateurs, par exemple, fait des groupes de parents autour des difficultés rencontrées dans l'éducation familiale, mais avec les technologies numériques, mais il faut vraiment développer cette culture collaborative partout, parce que nous sommes dans une culture, dans une civilisation qui a pour effet d'enfermer beaucoup les gens, de replier beaucoup les gens sur eux-mêmes, et de les enfermer beaucoup dans un cercle, dans le cercle de ceux qui sont d'accord avec eux. Et donc, poser des questions à l'extérieur de son petit cercle de gens qu'on sait d'accord avec nous, c'est rentrer dans une culture subversive par rapport à ce que les GAFAM font de nous, c'est-à-dire des consommateurs isolés.
Moi, j'aimerais savoir comment on peut identifier le trop. Quels sont les symptômes quand l'enfant passe trop de temps devant la télévision, trop de temps devant les réseaux, devant les jeux vidéo? Comment on peut identifier, ce que souvent on dit, il faut pas qu'il regarde trop la télé. Mais ça c'est quoi trop la télé, en fait? C'est ça la question.
Alors, vous savez, on raisonne aujourd'hui beaucoup moins en termes de temps d'écran qu'en termes d'intégration du temps d'écran dans le mode de vie général de l'enfant. Si votre enfant est un passionné de jeux vidéo, peut-être qu'il va jouer 2 heures par jour, mais s'il joue avec des copains qu'il connaît, qu'il retrouve à l'école la journée, si par ailleurs chaque semaine il a une activité sportive, voilà, si quand vous recevez des amis à la maison, ben il reste avec vous, voilà, il s'intéresse à la conversation, il n'y a pas de problème. Ce qui est important, c'est que la sociabilité et la créativité soient préservées. Et de ce point de vue-là, faut bien reconnaître que la télévision, c'est pas le meilleur outil pour préserver la créativité, la sociabilité. Les gens à réseau dans lesquels les joueurs sont invités à s'entraider, puis vous savez, maintenant, dans les jeux de guerre en réseau, on peut même être le médecin. Pendant très longtemps, on pouvait seulement choisir entre le tankiste et le mitrailleur et le tireur d'élite. Aujourd'hui, on peut aussi être le médecin, le soignant, voilà. Et donc, du coup, aujourd'hui, les jeux vidéo, paradoxalement, sont le domaine qui encourage le mieux la sociabilité de l'enfant. Alors, compte tenu du fait qu'il est très difficile que cette sociabilité soit alimentée souvent par des activités en présence physique. Parce que pour que la sociabilité soit alimentée en présence physique, il faut que les enfants aient des espaces dans lesquels se rencontrer. Or, les sociologues de la ville, comme Valérie Gobi, ont bien montré que les espaces dans lesquels les jeunes peuvent se rencontrer, dans les villes, se sont réduits comme peau de chagrin. Pendant longtemps, il y avait encore quelques terrains vagues. Bon, maintenant, ils sont bien clôturés pour éviter les accidents. Avant, l'État s'en préoccupait pas, Et puis, il y a eu les supermarchés. Maintenant, ils sont quadrillés par des vigiles qui empêchent tous les rassemblements d'ados. Et puis, il y a le béton partout, quand même, qui fait que il y a quelques petits jardins en général pour les mères de famille qui votent et pour les personnes âgées qui votent, mais il y a rien pour les ados qui ne votent pas. Et donc du coup, Valérie Gobi a bien montré que si les ados se rencontrent moins en présentiel, c'est pas parce qu'ils sont plus sur les écrans, c'est exactement le contraire. Ils sont beaucoup plus sur les écrans parce qu'ils ont beaucoup moins d'espace physique dans lequel se rencontrer. Donc il faut comprendre que cette sociabilité que les jeunes développent sur les réseau ou dans les jeux vidéo en réseau, c'est pas une manière de fuir la proximité physique. C'est une manière de rester avec leurs potes quand ils peuvent pas les retrouver. Vous savez, chaque fois qu'il y a des terrains de sport qui sont ouverts le week-end, des cours de récréation, des gymnases dans certaines écoles, ça, il faudrait qu'il y en ait beaucoup plus. Mais quand il y en a, en tout cas, ben les jeunes y vont. Ils vont pas toute la journée, évidemment, mais ils y vont. Ils sont contents de se retrouver. Vous savez, après le confinement, il y a des enseignants qui ont dit, mais ils sont restés tellement de temps dans leur coin, comment ils vont faire pour se retrouver? Dès que les portes de l'école se sont ouvertes, ils sont rués dans la cour en hurlant et ils se sont mis à jouer ensemble. C'est les jeunes sont beaucoup plus moteurs que nous. Ils ont beaucoup plus besoin de cette proximité avec leurs potes. On dit, certains chercheurs américains d'ailleurs disent que les ados sont pas du tout accros à leur portable. Ils sont accros à leurs potes. Et quand ils n'ont pas d'autre moyen d'être en contact avec leurs potes que le portable, mais ils sont sur leur portable. Voilà. Donc, comment définir le trop de télé, comment définir le trop d'écran en général? Ben, par le fait que l'enfant a des problèmes de sociabilité. Que quand un copain vient, quand qu'il refuse, par exemple, qu'on organise un anniversaire avec ses copains, ou qu'il refuse de répondre à une invitation d'anniversaire de ses copains en disant, mais je préfère rester devant mon ordinateur. Ça, c'est très inquiétant. Mais, tant qu'un enfant a cette curiosité relationnelle du contact de proximité, et puis, tant qu'il a aussi une activité de création, et ça, un certain nombre d'ados ont des activités de création, mais les parents ne le savent pas forcément. C'est en parlant avec leur enfant qu'ils le découvrent. Donc si vous avez cette curiosité sociale, cette appétence sociale, et puis éventuellement cette fibre créatrice qui s'y ajoute, vraiment, il n'y a aucune inquiétude à avoir. Et ça oblige à bien comprendre la différence entre la passion et la dépendance. Hein. Les gens qui sont passionnés d'une chose, ils peuvent y passer beaucoup de temps. Les passionnés de vieilles voitures, ou les passionnés de timbres, ou les passionnés de géologie, ils passent beaucoup de temps sur leurs petites boîtes ou sur leurs albums. Mais c'est une activité, ça a toujours été, ça a toujours permis aussi une socialisation à ceux qui en avaient envie, d'échanger des timbres, de regarder les catalogues, de s'informer auprès des experts, etc. Donc, il faut bien distinguer le trop d'écran, le temps d'écran excessif par passion et le temps d'écran excessif par désocialisation. Et encore une fois, si un enfant est beaucoup sur les écrans avec des activités de création, des activités sociales, eh ben, il faut éventuellement essayer de l'intéresser à autre chose, voilà. Mais en même temps, faut pas vouloir lui enlever quelque chose qui est pour lui un support de socialisation, à défaut d'en trouver un autre, parce qu'encore une fois, les espaces de rencontre physique sont très limités.
December's I recall, and I thank God every day for the girl he sent my way. But I know the things he gives me, he can take away. And I hold you every night, and that's a feeling I wanna get used to. But there's no man as terrified is the man who stands to lose you. Oh, I hope I don't lose you. Please stay. I want you, I need you, oh God. Don't take these beautiful things that I've got. Please stay. Feeling sane. It's been a while, but I'm finding my faith. If everything's good and it's great, why do I sit and wait till it's gone? Oh, I tell you, I know I've got enough. I've got peace and I've got love. But I'm up at night thinking I just might lose it all. You, I need you, oh God. I need these beautiful things that I've got.
La nuit sur Vibration. On passe des moments à écouter et découvrir des interviews que vous n'avez pas pu entendre. Bonne écoute.
Vibration, le focus en centre Val-de-Loire.
L'épicerie solidaire Aesop a ouvert ses portes fin novembre 2022 à Orléans-la-Source. Elle s'adresse uniquement aux étudiants sur inscription et sous conditions de ressources. Le principe, proposer des produits alimentaires, d'hygiène ou du quotidien à très bas coût. Le projet est né juste après la crise sanitaire du Covid, comme nous l'explique Sonia Walter, gérante de l'épicerie.
Grâce au Covid, on a appris que les étudiants étaient pauvres, que beaucoup d'étudiants étaient pauvres et qu'ils ne mangeaient pas à leur faim. Et donc, suite à ça, plusieurs grands acteurs d'Orléans se sont réunis et ont décidé qu'il fallait créer une épicerie solidaire. Alors, un litre de lait, ça coûte 16 centimes. Voilà. Et un kilo de pâtes, 33 centimes. En moyenne, le panier moyen d'un étudiant, à chaque passage, c'est 5,70 €. C'est la moyenne, le panier moyen. Un étudiant a le droit de dépenser 48 € chez nous par mois, ce qui représente, 600 € au moins dans un magasin classique.
Depuis son ouverture, Aesop compte plus de 450 étudiants inscrits et les passages en caisse sont de plus en plus nombreux. Parmi les bénéficiaires se trouve Ayoub, étudiant et bénévole également au sein d'Aesop. Pour lui, l'épicerie joue un rôle fondamental dans le quotidien des étudiants.
L'épicerie joue un rôle majeur. J'ai encore récemment un ami qui m'a rejoint en tant que bénéficiaire. Il m'en a parlé pendant une semaine, il était choqué, il y avait des produits de qualité. C'est des petites choses, mais sur le moral d'un étudiant, ça pèse énormément de manger tous les jours des pâtes. Là, de pousser les gens un petit peu à cuisiner, à manger des plats un petit peu plus sains, du fromage, ça fait extrêmement plaisir, ça ôte un stress. Et effectivement, le fait que ce soit pas cher du tout, ça nous libère un certain budget qui peut être réutilisé, notamment dans le culturel, dans l'éducation, les loisirs, etc.
Les étudiants qui souhaiteraient s'inscrire sont invités à se rendre sur le site internet de l'épicerie pour remplir leur dossier en ligne. À noter que des ateliers de cuisine sont également proposés par les bénévoles pour apprendre aux étudiants à bien manger. Plus d'informations sur le site aesoporléans.fr ou sur notre site internet le www.vibration.fr. Voilà pour le focus de la rédaction que vous retrouvez en podcast sur notre site internet.
Bienvenue sur Vibration.
Je sais ce que tu vas dire, que c'est pas à cause de moi. Mais t'es prête à partir, et tout est rangé déjà. Y'a plus que des affaires à moi. Je vais pas te retenir, j'ai déjà fait trop de fois. Et comme dernier souvenir, pas de celui-là, pas celui où tu t'en vas. J'aimerais garder le meilleur de ce qu'on était. Et je sais qu'ailleurs t'iras chercher un peu de ce que je ne t'ai pas donné. Je vais garder le meilleur de ce qu'on était. Et c'est pas grave si tu vas chercher un peu de ce que je ne t'ai pardonné, pardonné. S'il fallait recommencer, je crois que je ne changerai rien. De nous j'ai tout aimé, même quand ça se passait pas bien. T'avais de l'or dans les mains. J'aimerais garder le meilleur de ce qu'on était. Et je sais qu'ailleurs t'iras chercher un peu de ce que je ne t'ai pas donné. Je vais garder le meilleur de ce qu'on était. Et c'est pas grave si tu vas chercher un peu de ce que je ne t'ai pas donné. On se regarde peut-être pour la dernière fois. Et sans se parler, c'est comme un dernier au revoir. J'aimerais garder le meilleur de ce qu'on était. Et je sais qu'ailleurs t'iras chercher un peu de ce que je ne t'ai pas donné. Je vais garder le meilleur de ce qu'on était. Et c'est pas grave si tu vas chercher un peu de ce que je ne t'ai pas.
Sur Vibration, nous passons les nuits ensemble. Je suis une intelligence artificielle et on découvre ensemble nos meilleures interviews. comme celle-ci.
Le gros plan de la rédac, mobilité, comment réduire nos émissions. Un podcast réalisé par Mathieu Message et Lucas Pierre, épisode 1.
Voiture électrique contre voiture thermique, qui est la plus polluante ? Il semble évident qu'une voiture propulsée grâce à l'énergie électrique pollue moins qu'une voiture diesel ou essence. Mais beaucoup de questions persistent sur la consommation d'une voiture électrique et les éléments qui la composent. Au 1er janvier 2022, la France comptait 38,7 millions de voitures en circulation, mais seul 1% était électrique selon les chiffres du ministère de la Transition écologique. Les ventes de voitures électriques ont pourtant progressé, représentant 12,9% des nouvelles immatriculations en 2022. Elle devient aussi la première alternative aux motorisations thermiques devant l'hybride rechargeable. Et s'il reste minoritaire, les utilisateurs de véhicules électriques se font de plus en plus nombreux et sont même représentés par une fédération, la FAUVE, pour Fédération Française des Associations d'Utilisateurs de Véhicules Électriques. Elle s'est développée à partir de l'année 2016 et se donne pour mission de promouvoir les intérêts des utilisateurs de véhicules électriques, que ce soit auprès des institutionnels, des constructeurs ou tout autre acteur de secteur des nouvelles mobilités. Vincent Larnicol fait partie de la FAUVE. Habitant en Essonne, il possède une petite citadine depuis près de 10 ans et pensait à cette mobilité depuis bien longtemps.
Ça fait 30 ans que je m'intéresse à la voiture électrique. Mon point de départ, c'était une raison politique. Parce que la voiture électrique, c'est de l'argent qui reste chez nous. Alors que quand on utilise une voiture thermique, ben, on finance des pays étrangers qui n'ont pas forcément une politique très vertueuse, disons. Donc voilà, ça a été mon premier point de départ. Ensuite, il se trouve que j'ai eu l'occasion au Salon de l'Automobile en 2010 d'utiliser la voiture que j'ai achetée ensuite en 2012. J'ai constaté qu'en termes de confort, c'était nettement plus intéressant qu'une voiture thermique, parce que ça faisait pas de bruit, parce que c'est une accélération linéaire, facile, pas de vitesse à passer, pas d'à-coups, etc.
En France, la voiture reste le mode de transport le plus utilisé, et donc majoritairement en moteur thermique. L'objectif de fin de vente des voitures thermiques est fixé à l'horizon 2035 pour notre pays, car il est reconnu que la voiture électrique reste la meilleure technologie pour décarboner le parc automobile. Une notion confirmée par Aurélien Bigot, chercheur sur la transition énergétique des transports.
Première réponse, c'est qu'il y a une partie technologique à la transition qu'on doit faire, et notamment passer davantage à l'électrique qui est meilleure d'un point de vue climat, qui est meilleure d'un point de vue de la pollution de l'air aussi. Par exemple, un véhicule au pétrole tel qu'on en a aujourd'hui, il va consommer 10 tonnes de pétrole sur l'ensemble de sa durée de vie. Donc c'est des consommations qui sont énormes, il y a des gros impacts environnementaux liés à ça. Si on passe au véhicule électrique, il y aura aussi des impacts environnementaux, mais vis-à-vis des principaux défis environnementaux qu'on a actuellement, notamment le défi vraiment très structurant du changement climatique, c'est aujourd'hui ce qu'on a de mieux, ou en tout cas ce qu'on a de moins pire, quelque part on pourrait dire ça, pour notre transition. Mais comme il y a aussi des impacts qui sont importants avec le véhicule électrique, bah, si on veut réussir à faire une transition globale qui limite un peu l'ensemble des impacts environnementaux, il faut à la fois passer à l'électrique, mais aussi aller vers des véhicules qui sont plus légers, autant que possible utiliser la marche, le vélo, le train quand on le peut, revoir un peu l'aménagement du territoire, les modes de vie pour réussir à avoir des déplacements qui sont moins longs, covoiturés, etc. Il y a tout un panel de solutions aussi qu'il va falloir mettre en place pour réduire plus globalement les impacts environnementaux de nos transports.
Tous les grands constructeurs automobiles ont passé le pas et proposent sans cesse de nouvelles innovations autour de l'électrique. Pourtant, d'un point de vue extérieur, nous avons souvent l'impression que certains milieux stagnent et que cela fait 10 ans que l'on nous vend la Renault Zoé comme la solution à nos déplacements en ville. Parmi les nouvelles solutions, il existe aussi le projet Avatar, un véhicule pour les trajets du quotidien et dont la commercialisation est prévue pour cette année 2023. Frédéric Mourier est le porteur de ce projet.
Finalement, au lieu de regarder juste ce qui sort du pot d'échappement quand il y en a un, regarder globalement l'impact d'un véhicule. C'est vraiment la logique vers laquelle il faut tendre et vers laquelle on tend, s'étant mis plein de contraintes au niveau du cahier des charges, en se disant, nous, le véhicule doit être à la fois très peu impactant, le plus efficient possible, très abordable et très pratique pour remplacer les usages de la voiture pleinement au quotidien. Une solution un peu chaînon manquant entre le vélo et la voiture, si vous voulez. Pour un même déplacement, on va consommer 5 fois moins énergie. En ACV global, on est à peu près 5 fois moins impactant qu'un véhicule électrique ou thermique. Alors vous allez me dire, ça dépend desquels, mais voilà, on se compare souvent à une Zoé, par exemple. Tous les chiffres, grosso modo, on divise à peu près tout par 5.
Quels arguments avancer pour convaincre les Français qu'Avatar est un véhicule électrique fiable ? Bien sûr, une utilisation différente des voitures électriques actuelles, mais aussi une manière différente de fournir de l'énergie à ce type de véhicule.
Alors il y a plusieurs modes, en fait, si vous en avez vu des images, il y a de la surface de panneaux solaires qui justement va faire une partie de la charge. Donc par une journée bien ensoleillée, on aura une autonomie de 30 à 40 km qui sera produite uniquement par le soleil, ce qui peut du coup rendre le véhicule autonome si on fait moins que ça. Et puis sinon, très classiquement, on peut se mettre sur une prise domestique ou en station de recharge. Et à ça s'ajoutent des batteries qui sont extractives. En fait, on a des batteries relativement légères, hein, du poids d'une bouteille de gaz, par exemple. Donc, on peut les extraire, les remplacer, repartir instantanément. Donc, voilà, il y a ces trois modes qui se complètent très, très bien. Il faut voir que ça n'est possible que parce que le véhicule est extrêmement léger, extrêmement efficient, consomme très peu, et que finalement, l'ensemble du véhicule est plus léger qu'une seule batterie de Zoé. Et les batteries de notre véhicule, individuellement, sont 20 fois plus légères qu'une batterie de Zoé. C'est pas du tout les mêmes dimensions, sont pas non plus du tout les mêmes capacités, mais finalement, on arrive à avoir des autonomies très raisonnables et très suffisantes pour le quotidien, la Zoé étant elle-même déjà une voiture électrique, une des plus pertinentes et efficientes du marché. C'est pour ça qu'elle a aussi un tel succès.
Alors, que retenir de tout ça ? Visiblement, le thermique est une plaie pour l'avenir de notre planète. Et ce n'est pas un constat fait au hasard. Les transports restent le poste principal d'émissions de CO2 et 77% de ce taux est lié aux véhicules motorisés individuels selon le cabinet de conseil Carbone 4. Donc, la voiture électrique va résoudre tous les problèmes. Eh bien, pas si sûr. Christophe Debonne, membre de la Fauve et propriétaire d'une Tesla Model 3, est aussi d'accord pour relativiser sur ce propos.
Le véhicule électrique n'est pas la solution merveilleuse. Il y a peut-être eu une erreur de communication de dire le véhicule zéro émission. Voilà, on voit que Renault a changé un peu son fusil d'épaule aussi en parlant en abandonnant le sigle Z2. Mais aujourd'hui, c'est pas la solution avec un L majuscule A majuscule. C'est la meilleure solution qu'on ait aujourd'hui de décarboner la mobilité. Donc effectivement, quand on regarde la production des véhicules électriques, ils partent avec un handicap, c'est leur batterie. Mais en fait, on se rend compte que très rapidement, et ça, les études convergent là-dessus, je pense à l'ADEME, je pense à Carbone 4, qui convergent sur ce fait, c'est que au bout de 30-40 000 km, en fait, la voiture électrique devient plus vertueuse que son équivalent thermique, parce que on a atteint le point de pivot et finalement, bah, avec notre mix carbone, comme on dit, en tout cas en France et même en Europe, après 40 000 km, en fait, c'est pas qu'elle est zéro carbone et zéro émission, c'est qu'elle génère beaucoup moins de carbone que l'équivalent thermique, qui lui va continuer de toute façon à brûler du carburant, du pétrole, jusqu'à 100, 200 000 km, 300 000 km, voilà. Alors, on revient sur le débat SUV, etc. Donc, effectivement, plus un véhicule est gros, plus il a une grosse batterie et plus son handicap de départ est gros. Maintenant, c'est généralement des véhicules qui roulent beaucoup. Donc, peut-être que leur point pivot à eux sera pas à 30, 40 000 km, il sera peut-être à 70 000, 100 000 km. Les batteries sont prévues aujourd'hui pour dépasser le million de miles, 1,6 million de kilomètres. Donc, effectivement, sur la durée, il faut regarder sur la durée encore une fois. Nous sommes convaincus que le véhicule électrique est mieux que le véhicule thermique. Ce n'est pas la solution, mais est mieux que le véhicule thermique.
Voilà, il n'y a donc pas de vérité absolue dans ce domaine. Mais ce qui est sûr, c'est que si on met une voiture électrique face à une voiture thermique sur le ring de la pollution, eh bien la voiture électrique gagne car elle permet, en France et dès aujourd'hui, de diviser par 3 les émissions de gaz à effet de serre en comparaison avec une voiture thermique. Alors certes, on peut encore améliorer les caractéristiques de la voiture électrique pour la rendre encore plus vertueuse. Nous verrons ça d'ailleurs dans un prochain épisode. Mais rappelons quand même qu'en 2035, les ventes de véhicules thermiques seront interdite pour les véhicules neufs en Europe. L'électrique risque donc de devenir majoritaire sur le parc automobile. Vous vous posez peut-être d'autres questions autour des nouvelles mobilités et des solutions surtout pour réduire vos émissions de gaz à effet de serre ? Eh bien rendez-vous sur notre site internet et notre application. Quant à moi, je vous dis à bientôt. We'll be right back.
au cœur de la nuit Vibration. Je suis l'intelligence artificielle qui vous accompagnera pour vous faire découvrir les moments les plus passionnants de la rédaction. Et nous débutons avec cette première découverte.
À l'heure du numérique, il y a plein de nouveaux mots qui arrivent au cœur de la langue française. Des termes parfois un petit peu barbares, il faut l'avouer, comme par exemple le terme NFT. Alors qu'est-ce que c'est les NFT ? Eh bien, lors d'une visite à la Cité des Sciences et de l'Industrie, j'en ai profité pour poser la question à Gabi Bolivar. Il est médiateur au Carrefour Numérique.
Pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de ça, qu'est-ce que ça constitue ? C'est une sorte d'objet numérique, c'est ça qu'on peut acquérir, si j'ai bien compris ?
NFT, c'est un mot anglais qui veut dire non-fungible token, donc jeton non-fungible. Et par jeton, il faut entendre en fait quelque chose qui va être unique, qu'on va pouvoir acheter ou pas, puisqu'il peut y en avoir aussi qui sont gratuits, qui peuvent être cédés, et qui reposent derrière une technologie qu'on appelle la blockchain, qui nous permet de crypter et surtout d'authentifier ce qu'on va acheter. Et c'est quoi qu'on achète ? Ce sont généralement des créations, des œuvres d'art, qui peuvent être pour la plupart à 80% des images, des JPEG ou voilà, mais ça peut être aussi des sons, ça peut être des vidéos, ça peut être des livres, mais souvent, la plupart du temps en format numérique, puisque derrière il y a une technologie numérique de cryptage.
Et alors, comme n'importe quelle œuvre, elle subit un cours et donc il y a une évaluation dans la vie réelle, en tout cas financière. On estime que tel token ou en tout cas tel objet d'art peut valoir tel ou tel prix en euros ou en dollars.
Alors oui, et on estime, et il y a eu beaucoup d'infos en ce moment sur la bulle, on va dire, des NFT et sur son éclatement, qui en fait subit un peu de manière parallèle ce qu'on peut voir dans le marché de l'art. C'est qu'aujourd'hui, ce sont surtout des gens qui sont attirés par la valeur spéculative qui permet de justement se faire très rapidement plusieurs millions, mais on se rend compte qu'il y a finalement peu d'amateurs d'art stricto sensu qui s'intéressent aux NFT, et on voit l'exemple que tout le monde a vu du premier tweet qui avait été vendu à plusieurs millions et qui aujourd'hui vaut une vingtaine de dollars et qui en soi n'est pas un objet artistique, à part si, comme toujours le marché de l'art, c'est ceux qui décident que c'est de l'art ou que c'est à vendre qui fixent le prix.
Alors c'est parfois un peu difficile à comprendre de l'extérieur, parce que on voit par exemple le créateur des smileys qui lui a carrément vendu certaines de ses créations, parce que là on peut dire que c'est devenu un objet culturel. Aujourd'hui tout le monde utilise un smiley parce que tout le monde utilise un téléphone ou un ordinateur. Et à côté de ça, il y a aussi eu des streamers, des youtubeurs qui se sont amusés aussi à faire des NFT. Alors souvent pour la bonne cause, mais pour des choses qui ne valent rien. En fait c'est un gribouillis sur Paint qu'ils ont ensuite vendu aux enchères. C'est un peu compliqué parfois d'un point de vue extérieur, de se dire est-ce que vraiment cette chose-là elle a vraiment autant de valeur qu'une autre, et justement est-ce qu'il y a un peu une régulation de ce marché ?
Oui et non, il n'y a pas trop de régulation de ce marché, mais en fait il s'est un peu autorégulé tout seul, dans le sens où ben, par rapport aux valeurs exponentielles qu'on pouvait donner, aujourd'hui c'est plutôt, ça s'est un peu calmé, et les gens ont un peu déchanté. Ils se rendent compte que c'est pas tant pour sa valeur financière, sa valeur d'échange, que les gens veulent créer des NFT, mais plus pour le côté décentralisé et qui enlève des intermédiaires dans l'achat et la vente d'œuvres, puisque à la base c'était surtout pour aider les artistes à pouvoir créer une chanson, créer un média un peu authentique et pouvoir se rapprocher de sa communauté de spectateurs, ses auditeurs, et pourquoi pas surtout il y en a beaucoup qui le voient à la fois dans le monde de la musique. Si on prend l'exemple des Pussy Riot, qui ne font pas que de la musique mais aussi des œuvres d'art, elles permettent aux gens qui achètent leur NFT d'accéder à plus de contenu, accéder à des concerts privé, accéder à une communauté. En fait, il faut l'imaginer un peu comme un club avec un accès numérique derrière.
Comment on sécurise ça ? Je sais que la question est peut-être un peu complexe, mais j'imagine qu'on ne peut pas faire de copie. Ce sont des œuvres uniques, ou en tout cas, si c'est possible, comment on peut essayer d'empêcher ça pour justement que l'œuvre, ou en tout cas l'objet, soit unique, et qu'à partir du moment où on est possesseur, propriétaire de ce NFT, on ne puisse pas avoir un ersatz qui se balade comme ça dans la nature.
En fait, c'est vrai qu'on peut, en soi, un NFT, c'est juste une authentification d'un accès à une image. Mais l'image, je peux la recopier, la mettre sur mon ordi autant de fois que je veux. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que dans la blockchain, vu que c'est à la fois décentralisé et public, tout le monde peut voir à quelle date et à quel moment la personne a authentifié ce NFT. Et il y a aussi une tendance qui est de pouvoir imprimer, de rendre physique son NFT. Et il y a plusieurs plusieurs compagnies qui font ça, où du coup t'as un objet matériel avec un code et un objet, que ce soit en plastique, en bois, en papier, qui rend un peu tangible cette chose immatérielle.
France Football, en tout cas le comité Ballon d'Or, qui a expliqué que au-delà du Ballon d'Or physique, le trophée, il y aura aussi un Ballon d'Or NFT. Quel intérêt pour un joueur de football de posséder un Ballon d'Or NFT? Et est-ce que c'est une manière, on va dire un peu communicationnelle ou du moins marketing pour une institution comme celle-là, de dire bah voilà, nous aussi on évolue avec notre temps, on propose un NFT. Est-ce que ça peut être accompagné entre guillemets d'une prime, c'est-à-dire vous êtes le meilleur joueur du monde élu par vos pairs. Est-ce que cette prime-là, elle peut être intégrée dans le NFT?
En fait, le NFT, il faut le voir aussi comme un... Vu qu'on peut mettre pas mal d'informations dessus dans les deux sens, il faut le voir aussi comme un outil de communication qui permet de rapprocher des créateurs ou des sportifs ou des musiciens de sa communauté. Donc, on a déjà vu, ça a été beaucoup fait dans le monde de la F1. Ça permet de rapprocher les pilotes de leurs fans, ça permet de leur offrir du contenu. La NBA s'est beaucoup mis. En fait, il y a une tendance dans les clubs, dans les communautés sportives de faire ça. Donc, effectivement, c'est du marketing, mais ça permet aussi, de manière un peu honnête, de pouvoir se rapprocher des fans.
Mais pour les fans, ok, mais pour Benzema, là, par exemple, on l'annonce grand favori, lui, entre guillemets, qu'est-ce que ça va lui permettre d'avoir en sa possession un Ballon d'Or NFT?
Bah, on reste un petit peu dans le côté spéculatif et le côté un peu je t'offre un NFT parce que t'es quelqu'un de connu. Il y a aussi l'influence qui est pour beaucoup. Et on se rend compte aujourd'hui sur les NFT, ils ont beaucoup perdu leur valeur et en fait, la manière de maintenir de la valeur, c'est de faire du buzz autour. Il y a même des nouveaux métiers qui se créent un peu comme community manager, t'as des buzz managers qui en fait leur boulot c'est de maintenir le buzz du NFT pour ne pas perdre les investisseurs, c'est-à-dire les gens qui les ont achetés, pour pas qu'ils s'écroulent tout de suite. Donc pour garder à la fois quand même la dimension financière et économique qui est derrière le NFT.
Au niveau du rapport aux fans, est-ce que vous avez des exemples précis de ce qui a pu être offert ou du moins mis en vente par rapport au sport et surtout qui est le public? C'est-à-dire que j'imagine qu'il y a encore plus de monde qui achète des maillots de Benzema au Real Madrid ou la casquette de McLaren qu'un NFT lié à l'écurie ou au Real Madrid.
Comme je vous disais tout à l'heure, il y avait l'exemple de la F1. En fait, ce qui a été vu et qui était connu, c'était les casques en fait, de chaque pilote. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont été faits avec les pilotes. Et donc, faut le voir aussi un peu comme, imaginez les collections de cartes de baseball, les cartes Pokémon. À chaque fois, ce sont des éditions limitées. On va sortir 1000 ou 5000 NFT numérotés et c'est uniquement les 5000 premières personnes qui auront accès à ces NFT qui les auront. Donc il y a un côté vraiment collection. Il y a des gens, ils viennent là-dessus comme quand tu collectionnes des skins en jeu vidéo.
Pour Paris 2024, normalement il restera encore un tout petit peu d'or pour faire les médailles, mais on peut s'imaginer que pour les JO 2038 ce sera des médailles NFT, c'est-à-dire que sur le podium il n'y aura plus de médailles physiques, mais on offrira peut-être une médaille d'or, une médaille d'argent, une médaille de bronze en NFT aux athlètes.
Effectivement, il y a un côté décorrélé de la ressource physique. Donc, on peut imaginer créer de la valeur en quantité limitée, avec, comme on a pu voir, les dérives que ça peut permettre. Mais ça permet aussi de rapprocher des gens d'un objet qui n'existe pas.
Merci Gabi Bolivar, médiateur numérique à la Cité des Sciences et de l'Industrie. Et je pense qu'on va reparler très prochainement des NFT dans le futur.
Find me in the echo of the dark, working on the rhythm of your heart. Lost you in the maze, now let me out. Is it love, is it love, is it love? Without a warning, without a sign, will you call me or will you hide? There's a shadow in my mind. Don't leave me.
gratuitement Vibration en haute définition grâce au DAB+. Pas besoin d'abonnement. Le DAB+ vous offre un confort d'écoute inégalé pour profiter de vos hits préférés. Vibration s'écoute maintenant en DAB+ à Orléans, Blois, Tours, Le Mans, Angers, Poitiers, Nantes et dans de nombreuses autres villes. Bienvenue à tous. Vibration, c'est encore mieux en DAB+.
Excuse-moi, je sais que d'autres avant moi ont fait le test et qu'ils n'ont pas aidé mes plans, mais je t'en prie, reste. Laisse-moi t'ouvrir la porte et prendre ta fesse. Assieds-toi, rien ne presse. Quand je veux te voir, je veux déduire ton style flash, laisse ton cœur froid. De toute façon, tu sais du cash, moi j'en ai pas. Mon angle bien beaucoup plus subtil que ça. Prends ton temps, écoute-moi. Quand je te chante, c'est avec eux que jamais si tu permets. Crois-moi, car c'est ta place qui m'attire et tu le sais. Ça se voit, c'est avec place que je te désire, mais dans le respect. En tout cas, c'est avec classe et ça marche à chaque fois.